l'histoire d'un aviateur pas comme les autres. Un avi-auteur qui déployait ses ailes de papier comme celles des avions qu'il pilotait. Vous l'avez évidemment reconnu, l'auteur du Petit Prince, publié à New York en 1943 et traduit, tenez-vous bien, dans 457 langues. Deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Un écrivain français, un poète profondément humaniste, un reporter et, bien sûr, un pilote. Bon nombre de ses livres sont d'ailleurs inspirés de ses expériences de vol.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Dessine-moi un mouton.
Antoine de Saint-Exupéry, ouais, c'est bien lui. Pique la lune, comme on l'appelait, en raison de son air distrait et rêveur, et de son nez un peu en trompette. Né à Lyon en 1900, la même année que Jacques Prévert. 1900, la dernière année du 19e siècle, rien que ça. Cette année-là, l'exposition universelle rassemble à Paris plus de 50 millions de visiteurs. Un succès immense, gargantuesque. Ce qui n'empêche pas la ville lumière d'accueillir la même année les Jeux Olympiques. Au même moment, au nord des Alpes, à la frontière entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, le premier dirigeable, un vaisseau des airs immense, baptisé LZ-1, quitte le plancher des vaches pour la première fois. Le Z du nom LZ-1 fait référence à Zeppelin, un conte allemand, militaire, ingénieur et inventeur qui a fabriqué l'engin. On promet de beaux jours aux Zeppelins. L'histoire prouvera le contraire. En Belgique, toujours en 1900, le roi Albert Ier épouse Élisabeth de Bavière. Albert Ier, qui effectuera d'ailleurs un vol au-dessus d'Anvers, à bord d'un des engins du comte Zeppelin. Mais si vous le voulez bien, revenons à Saint-Exupéry. Il y aurait tellement à dire sur l'artiste. Mais aujourd'hui, c'est du pilote dont nous allons parler. Saint-Ex, comme ses compagnons de vol avaient pour habitude de l'appeler. Peut-être pas le meilleur pilote du monde, vous allez le comprendre, mais un pilote d'exception. Antoine de Saint-Exupéry naît dans une famille issue de la noblesse. Élève rêveur et dissipé, il est souvent puni pour sa nonchalance et son désordre. Ce qui l'attire Antoine, c'est l'ailleurs, l'aventure, le lointain. Sa place préférée dans la salle de classe ? Dans le fond, juste à côté de la fenêtre. Le maître qui parle de conjugaison, d'arithmétique, c'est un brouhaha. Un brouillard qui lui donne matière à imaginer en regardant dehors.
Quand on a un petit garçon au collège, on se lève trop tôt. On se lève à 6 heures du matin. Il fait froid. On se frotte les yeux et on souffre à l'avance de la triste leçon de grammaire.
Alors l'école, oui. L'école, c'est pas son fort, petit Antoine. Heureusement, il passe ses vacances au château familial de Saint-Maurice. Et c'est une aubaine, car à quelques kilomètres se trouve l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey, un terrain d'aviation où les constructeurs lyonnais essaient leurs aéroplanes. Dès qu'il parvient à échapper à la surveillance de sa mère, Antoine s'y rend à vélo. Il y interroge les mécaniciens et les ingénieurs sur le fonctionnement des appareils. Tout, absolument tout, attise sa curiosité. Ce dont il rêve par-dessus tout, Antoine, eh bien, c'est de voler.
Ah, c'est quoi ça? Et ça, à quoi ça sert? Waouh! Il est drôlement beau, ton avion! Dis, tu peux montrer comment on le fait voler?
Il explore, il marche le long des champs d'aviation, fasciné par les moteurs, il farfouille dans les hangars. Un soir de l'été 1912, Antoine s'endort tout excité. Demain, c'est le grand jour. Demain, c'est son anniversaire. Il aura 12 ans. Il y pense depuis ses 9 ans, depuis qu'il a demandé pour la première fois à sa mère quand il pourrait enfin voler. Elle lui avait répondu, en riant et en lui caressant les cheveux, « Enfin Antoine, tu n'es encore qu'un petit garçon. » Mais sa détermination n'a pas faibli. Bien au contraire, il s'est fait une promesse.
« Avec ou sans l'accord de maman, quand j'aurai 12 ans, je serai un grand et je volerai. »
Et il a tout prévu, le petit Antoine, tout. D'abord, il s'est lié d'amitié avec Pierre et Gabriel Wroblewski, dits les frères Salvez. Ce sont eux qui ont mis au point le W2. Le premier avion à structure métallique. Incroyable. Antoine n'en avait jamais vu de si beau. Pierre lui a tout expliqué, pièce par pièce, étape par étape. Gabriel, le frère cadet, tout juste 24 ans, se chargeait de piloter l'appareil. Et il a même laissé Antoine monter dedans, juste pour voir. Alors ce matin-là, le matin de ses 12 ans, Antoine n'a qu'à exécuter le plan qu'il a méticuleusement élaboré dans sa tête, chaque soir avant de s'endormir.
Étape 1. Attendre que maman soit partie au marché et que Paula étende le linge dans le jardin. Étape 2. Se faufiler par les cuisines. Étape 3. Monter sur mon vélo caché derrière le bosquet. Étape 4. Prendre le chemin de terre qui mène jusqu'à l'aérodrome. Et c'est gagné.
Pour ne pas se perdre, rien de plus simple. Il lui suffit de suivre le vrombissement des moteurs. Plus ils vont fort, plus ils s'approchent du but. Et puis peu à peu se dressent devant lui les murs gris de hangar. Une boîte à trésors, immense. Ce matin-là, par chance, le Bertrand Wrobleski des frères Salvez est sur la piste. Antoine dépose son vélo et s'avance vers Gabriel en courant.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu peux montrer comment voler? J'ai 12 ans maintenant. Maman a dit oui.
15 minutes plus tard, un casque enfoncé sur la tête, Antoine observe, pour la première fois, subjugué, le monde d'en haut. Il vient de rejoindre son univers.
Les ailes frémissaient sous le souffle du soir. Le moteur de son chant berçait l'âme endormie. Le soleil nous frôlait de sa couleur pâle.
Mais ce n'est que le début de sa douce ascension. Après avoir laborieusement obtenu son bac, Antoine arrive à Paris. Il fait peu à peu la rencontre de celles et ceux qui font le beau temps des lettres françaises entre les pluies de bombes qui heurtent la capitale. Nous sommes en 1917. La guerre déchire l'Europe. Les sirènes résonnent de toutes parts, monstrueuses, assourdissantes. Un soir, au lieu de se réfugier dans les souterrains de la ville, Antoine monte sur un toit. La peur lui tiraille le ventre, mais le ciel l'appelle, ébahi. Il admire le spectacle féerique du ballet des avions qui crachent des étoiles. Des fusées sont tirées du sol par l'artillerie antiaérienne. Les immeubles explosent. Soudain, une étoile filante file droit sur lui. Immense, rapide. Antoine a 18 ans. Il la regarde venir, la mort dans l'âme, tétanisée. La bombe n'est plus qu'à quelques mètres. Et puis une lumière l'aveugle. Un bruit tonitruant de ferraille, de guerre, de mort résonne dans la nuit de feu. La terre tremble, elle gronde. Le toit sur lequel il est assis semble vaciller. Et tout à coup, le bâtiment d'à côté ploie le genou, tombe à terre, s'écrase contre le sol. Une chute qui semble durer des heures. Le cœur d'Antoine bat la chamade. Il n'a pas fermé les yeux un seul instant. Il reste là, assis, abasourdi, abattu. Les sirènes résonnent partout dans ce qui reste de la ville lumière. Il l'a échappé belle. Tous n'ont pas eu cette chance. C'est à cet instant, à un cheveu de la mort, que se forge sa plus profonde conviction, celle qui jamais ne le quittera. Lui aussi, il veut défendre son pays, faire partie des volants, quitter le monde des rampants. Nous sommes en avril 1921. Après la guerre, le petit Antoine, devenu grand, débute son service militaire. Il est mécanicien au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. La sensation de son premier vol est toujours aussi vivace. Il l'entretient méticuleusement, comme son plus précieux souvenir. Alors dès le mois de juin, il décide de s'inscrire à des cours de pilotage civil. Un mois plus tard, son moniteur lui laisse le champ libre pour un tour de piste, pour ce qu'on appelle un premier solo. Tous les pilotes qui m'écoutent se souviennent de ce moment magique où la terreur est terrassée par la passion. Cette passion qui vous pousse inexorablement à vous surpasser. Alors bien sûr, quand Antoine monte dans l'appareil, eh bien il tremble un peu. Il a la gorge nouée et la boule au ventre, mais l'excitation est plus grande encore. Il démarre le moteur qui se met à ronronner. Et c'est bon signe à une époque où la fiabilité des moteurs est une loterie. Il se remémore une à une toutes les actions à effectuer pour que tout se passe bien. Il se concentre. Déjà, l'adrénaline coule dans ses veines. Une fois son briefing terminé, il empoigne le manche. Gaz à fond, il s'élance. Plus vite. Plus vite, toujours plus vite. Les petites roues de l'appareil caressent le gris du tarmac. Rotation. L'avion se cabre légèrement. Les roues quittent délicatement le sol du champ d'aviation. Ça y est, il vole. Plus haut maintenant, plus haut. Une fois dans les airs, il se sent ivre de joie. Seul, dans son poste de pilotage, il exulte. Il voit le monde en haut. Il voit le monde en grand.
Youhou !
Il y est depuis quelques minutes seulement, mais il sent, il sait qu'il pourrait y rester des heures. Il pourrait y rester toujours. Pourtant, il est déjà temps de rejoindre le plancher des vaches. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'avion est trop haut, beaucoup trop haut, pour pouvoir se présenter en finale pour l'atterrissage. Il est très loin des 3 degrés nécessaires pour une belle pente d'approche. Antoine est pris de sueur froide. Il remet les gaz. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un go-round, mais trop brusquement. Oh non, 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 non. Le moteur pourrait prendre feu, il faut rester calme, toujours rester maître de soi pour rester maître de son appareil. Et surtout, allez, Antoine, il ne faut pas paniquer. En aviation, céder à la panique, c'est la mort assurée. Antoine tente de se reprendre. Il inspire profondément, il reprend de la hauteur, fait un second tour de piste, sans exulter ses doigts. En restant concentré, sa vie en dépend. Ses mains tremblent sur le manche. Il transpire, il regarde droit devant lui, il y est presque, presque. Et là, c'est bon. Sa vitesse est bonne, la pente est parfaite. Il peut le faire, il va le faire. Il atterrit en beauté. Après plusieurs semaines d'entraînement supplémentaire, sa formation est validée. Antoine a tout juste 21 ans et le voilà pilote civil. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, à Casablanca, il obtient son brevet de pilote militaire. Il gravit peu à peu les grades au sein de l'armée. Il suit son petit bonhomme de chemin. Son rêve est en voie de se concrétiser. Mais au printemps 1923, c'est le drame. Antoine est victime d'un accident. Il se crache aux commandes d'un Breguet 14. Un biplan de conception française, rapide pour l'époque. Peut-être trop. Bilan, une fracture du crâne et une démobilisation. Antoine de Saint-Exupéry ne peut plus voler. Il est cloué au sol. Pour lui, cela équivaut à être cloîtré en prison, privé de sa liberté, privé de vivre vraiment.
La folle histoire de l'aviation.
Cette enfance n'a qu'une direction, le ciel. Baptême de l'air à 12 ans, premier solo à 21 ans, Antoine devient rapidement pilote civil, puis pilote militaire. Mais en 1923, c'est le drame. Antoine s'écrase et frôle la mort. Démobilisé et cloué au sol, il n'a plus de raison de vivre, si ce n'est attendre 3 ans, 1095 jours, avant de pouvoir voler à nouveau. S'écoule doucement pour Antoine, trop doucement. Les journées s'éternisent et se ressemblent toutes. Elle semble sans saveur. Il se remet sur pied. Le temps passe, fait son œuvre. Et un matin, Saint-Ex se réveille et revient à la vie. Enfin. Nous sommes en 1926. Il est rétabli. 3 ans plus tard, le soulagement, la délivrance, la vie. Antoine, stressé, pressé, excité comme à ses 12 ans avant son premier vol, postule en qualité de pilote pour la compagnie Latécoère. Il s'est répété des dizaines de fois ce qu'il dirait pour motiver sa candidature. À l'époque, la compagnie Latécoère, c'est la société pionnière et leader mondial de l'aéropostale, avec des milliers de kilomètres de réseau. Un rêve pour de nombreux aviateurs. Mais quand le directeur de la compagnie voit débarquer Antoine, avec son grand front et son nez en trompette, il est sceptique. « Ah, tu sais piloter, toi, alors ?» À ses yeux, le jeune homme n'a pas de réelle expérience dans les airs, mais finalement, qu'importe. La société a besoin de pilotes pour transporter le courrier entre Toulouse et Dakar. Un pari des plus risqués. Seuls les plus intrépides ou les plus inconscients s'y essaient. Entre Agadir et Dakar s'érige un désert de plus de 2000 km. 2000 km de dunes. Le vol se fait sans autre instrument de bord qu'une boussole, une montre et une carte. Et puis il faut aussi compter avec les ennemis rencontrés, nombreux. La brume épaisse, les cyclones emportant tout sur leur passage, le vent de sable. Mais Antoine insiste. Les yeux brillants, sa survie, sa raison de vivre en dépend, son audace à raison de son manque d'expérience. Et il est finalement embauché. Rapidement, il fait la connaissance de Jean Mermoz, figure légendaire de l'aéropostale, qui sera surnommé l'Archange, et Henri Guillaumet, pilote civil de renom. Depuis Toulouse, Antoine s'élance pour son premier vol. On l'a bien prévenu. La moindre erreur peut lui être fatale et chaque seconde d'inattention équivaut à une mort certaine. Tu sais, Antoine, en cas de problème au milieu du désert, il faut savoir que les appareils sont difficiles à repérer. Et puis il y a la soif. Le cri de douleur de la soif et l'appel de l'eau, c'est terrible. Et puis il faut aussi compter avec les Maures. Les Maures, ce sont les tribus qui peuplent la région. Antoine en fera la rencontre, bientôt. Les pilotes sont leurs cibles favorites. Soit ils décident de les abattre sans autre forme de procès, soit ils les prennent en otage, contre rançon. Sincèrement, Antoine, je sais pas ce qu'il vaut mieux souhaiter entre les deux. Dans les airs, voilà les pensées qui peuplent la tête d'Antoine, alors qu'il scrute l'horizon infini. Très vite, il n'a plus l'occasion d'y réfléchir. Quelques secondes, la tête en l'air, et son Breguet 14 s'écrase dans les dunes. Déjà, encore. Heureusement, il est sain et sauf. Sa tête, ses bras, ses jambes, oui, tout va bien. Pas une égratignure. Mais une fois au sol, le danger est ailleurs. Antoine se cache dans la carcasse de son avion, en attendant qu'un compagnon le repère. À moins que ce ne soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus menaçant qui le découvre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, en territoire rebelle, armé d'un revolver et de 5 chargeurs. Après 6 heures passées, la peur au ventre, sous un soleil de plomb, à sursauter au moindre son suspect, Antoine reconnaît un bruit familier au loin. Un bruit amical, un bruit salutaire même. De cette première rencontre avec le désert, rude certes, il sortira indemne, mais averti, aguerri. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Fin 1927, Antoine est nommé chef d'escale à Cap Juli, au Maroc, un fortin militaire situé au cœur du territoire maure. Sa mission ? Entretenir les appareils et améliorer les relations de la compagnie avec les tribus, en gérant notamment la libération des otages. La barbe hirsute, vêtue d'une gandoura, la tunique traditionnelle, il prend sa tâche à bras-le-corps, apprend la langue des Maures et se familiarise avec leurs coutumes. Cette vie monacale, entrecoupée de sauvetages de pilotes en détresse au péril de sa vie, l'apaise. Malgré lui, il se crée peu à peu sa légende. Ses camarades l'appellent désormais Saint-Ex et racontent ses exploits dans les cafés environnants. Au Maroc, Antoine découvre les fruits de la solitude et la magie du désert. Ce temps passé hors du monde lui permet de se lancer dans la rédaction de Courrier Sud, son premier roman. Pendant ce temps, la compagnie aéropostale ouvre aux pionniers de l'aviation de nouveaux horizons. Il s'agit cette fois de traverser l'Atlantique pour distribuer du courrier jusqu'en Amérique du Sud. Soyons clairs, c'est une pure folie. En septembre 1929, Antoine quitte le Maroc. Il rejoint Mermoz et Guillaumet. À leur côté, il contribue au développement de l'aéropostale. Paraguay, Brésil, Patagonie et surtout Chili. Chili qui nécessite la traversée de l'infranchissable cordillère des Andes. Des pics immenses qui s'élèvent à 5000 mètres. Des vents terribles soufflant jusqu'à 200 km par heure. Les aviateurs doivent se frayer un chemin pour acheminer le courrier encore plus loin, encore plus vite, toujours plus loin et toujours plus vite. Ils inaugurent les premiers vols de nuit, sans repère ni balisage. Une absurdité, du délire, du suicide. C'est beau de partir la nuit. On tire sur la manette des gaz, face au soleil, et 10 secondes plus tard, on renverse le paysage face au nord. Si la vie humaine n'a pas de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose dépassait en valeur la vie humaine. Mais quoi ? Loin de compter parmi les meilleurs pilotes, celui qu'on appelle désormais « Pique la Lune » rate la plupart des examens de navigation et commet de nombreuses erreurs de pilotage. Cependant, Antoine se démarque lors d'atterrissages périlleux et par son endurance. Il est un des seuls à savoir piloter plus de 20 heures durant. Et surtout, héritage de ses années de sauvetage dans le désert aride, il ne recule devant rien pour porter secours à un pilote en détresse. Lorsqu'en juin 1930, son ami Guillaume s'écrase dans les Andes en plein hiver, Antoine vole 5 jours au-dessus des pics enneigés pour lui venir en aide. Une fois sain et sauf, Guillaume lui confie, épuisé, « Ce que j'ai fait, je te jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. » De ses épopées au-dessus de la cordillère des Andes naît Vol de nuit. Le roman connaît un immense succès et signe la fin de la coopération d'Antoine de Saint-Exupéry avec l'Aéropostale. Sa publication lui attire les foudres de la direction et de nombreux pilotes estiment que sa notoriété d'aviateur n'est pas méritée. La compagnie le relève de ses fonctions, prenant comme prétexte ses erreurs de pilotage. Antoine décide alors de se consacrer à l'écriture et au journalisme. Il s'essaie à la carrière de grand reporter au carrefour de ses passions. Sa soif de voler ne le quitte pas, jamais. Il devient pilote d'essai et pilote de raid. Il entreprend des reportages au Vietnam, puis à Moscou. En décembre 1935, il tente un raid de Paris-Saïgon. Son but ? Battre le record d'un pilote qui, quelques jours plus tôt, a relié les deux villes en 3 jours et 15 heures. Antoine a décollé sans réfléchir. Voler, c'est toujours ce qu'il fait vivre. Les airs, c'est le seul endroit où il se sent en paix, où il se sent en vie, dans la solitude la plus profonde, au plus proche de la mort. Alors qu'il vole depuis 2 jours, la fatigue commence à se faire sentir. Mais il en a vu d'autres, Antoine. Il est 3 heures du matin.